Poor Little Belgium, Pauvre Petite Belgique, une série proposée par Christine Mazuy, avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation, Jeanne de Barcy. Août 1914, dans les villes martyrs, les civils sont au cœur du conflit. 9e épisode, la Der des Der.
J'ai entendu raconter ça, mais des milliers de fois, au point que quand j'étais jeune ou adolescent, je me disais, mais qu'est-ce qui nous casse les pieds avec la guerre de 14, hein, c'était... On ne s'imaginait pas ce que c'est, mais en vieillissant, j'ai lu, j'ai appris, j'ai retenu. Je me dis, mais enfin, c'est impensable. C'est un carnage sans nom, c'est l'horreur au sens propre du terme.
Jackie Claus, historien local, Tintigny.
C'est l'apocalypse.
Sur toute la durée de la guerre, les pertes militaires, c'est 42 700 victimes.
Francis Ballas, professeur d'histoire, Université de Liège.
Et les pertes civiles totalisent 28 000 victimes à peu près. Louvain, Arscott, Rossignol, Dinan.
De tout temps, les civils ont toujours été victimes des guerres. Et de manière parfois complètement odieuse.
Laurence Vanipperzeel, professeur d'histoire, UCL.
Mais ici, ce qui est nouveau, c'est que c'est intégré à la stratégie des armées. Ici, c'est pas un dommage collatéral. Et donc là, on est vraiment dans un autre monde.
Du côté allemand, la mémoire est la version officielle qui a été défendue jusqu'aux années 90 du XXe siècle, c'est l'idée qu'il y a eu un soulèvement populaire en Belgique.
John Horn, professeur d'histoire, Trinity College, Dublin.
Et parce qu'il s'agissait de civils qui s'armaient contre les troupes allemandes, on était en son bon droit de la réprimer.
La Belgique n'a pas organisé de guerre de franc-tireur.
Est-ce qu'il s'agissait de la barbarie allemande ? À mon avis, non. C'est-à-dire que les troupes allemandes se sont comportées d'une manière très brutale, en croyant réellement et sincèrement à l'existence d'un soulèvement populaire. Tout de même, ces actes de la part des troupes allemandes étaient une transgression morale et aussi étaient des crimes de guerre.
Les crimes de guerre de 14 était très peu ou pratiquement pas poursuivi par la justice.
Philippe Plumet, historien, chargé de mission, commémoré 14-18.
Il y a eu une tentative de procès pour ces crimes-là. Tentative qui a échoué.
On avait demandé la livraison des responsables allemands. Le Kaiser était réfugié en Hollande neutre. La reine Wilhelmine a dit « c'est un réfugié politique ». Je ne le livre pas.
Francis Ballas.
La plupart des généraux allemands étaient honorés. N'oubliez pas que le président allemand, à partir de 26, c'est tout de même Hindenburg, hein, qui a été le commandant en chef des armées allemandes. En 1925, la peur de la guerre s'est un peu apaisée, les souvenirs aussi. Et dans la grande vague de pacifisme, on va signer les accords de Locarno.
Et là, on voit que le gouvernement belge s'aligne sur cette position beaucoup plus pacifique.
Laurence Vanipperzeel.
Et donc met un bémol, notamment sur tout le thème des massacres de civils, qui évidemment est un thème qui fâche, puisque l'Allemagne ne reconnaît pas. Et le gouvernement ne veut plus en entendre parler, il faut se rapprocher, relancer l'économie, etc.
Axel Tixon, professeur d'histoire, Université de Namur.
Le fait de rappeler les événements d'août 1914 va être de plus en plus mal vu.
Ces épisodes-là se font restituer pour toujours parce qu'il faut surtout qu'on soit tous européens.
Sophie de Scarp-Draver, professeur d'histoire, Université de Pennsylvanie.
Donc, en fait, oui, c'est une mémoire maltraitée et mal traitée.
Au point qu'en 1936, Dinan va ériger un monument.
Michel Collot, conservateur des archives de Dinan.
Le Furore Teutonico, c'est un mémorial. On rend hommage aux civils belges, pas uniquement dinantais.
Et le ministre des Affaires étrangères, qui est Paul-Henri Spaak, fait savoir qu'on interdit aux militaires en uniforme d'assister à l'inauguration.
Francis Balès.
Qu'on interdit aux fonctionnaires d'y être et que c'est une cérémonie strictement privée dans laquelle le gouvernement belge n'a rien à voir. Mais on n'a pas pu empêcher, évidemment, l'érection, notamment dans le plateau de Herve, de dizaines de monuments qui commémorent l'endroit où on a fusillé 10 personnes. Vous avez des monuments à Rossignol, vous avez des places de martyrs partout. Le poids de 14 est fondamental en 1940.
Peut-être si on avait jugé et si on avait pu établir la vérité au début des années 1920,
John Horne,
ça aurait pu empêcher que cela ne se produise pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le fameux exode vient essentiellement de cette crainte de voir recommencer 1914.
Et c'est les Boches reviennent.
Laurence Vanipperzeel.
Ils vont de nouveau nous massacrer et donc ce sont des centaines de milliers de personnes qui partent sur les routes en mai 40.
Quand on a recommencé en 40, on a foutu le camp rien qu'à cause des Boches. Hein.
Marcel Houbion, dit Nantais.
Moi je dis toujours les Boches, hein. Ça reste. Mais je ne saurais pas les appeler autrement.
J'ai jamais entendu parler des Allemands, hein. C'était toujours les Boches par-ci, les Boches par-là. Hein.
Jackie Claus, Tintini.
C'est comme quand on a parlé de l'Europe. Moi, j'étais jeune quand même, avec les Boches, est-ce que ça ira? On n'a jamais parlé des Allemands. C'était les Boches.
Donc, il reste quand même, là, il y a quand même quelque chose.
Jean Dauphin, fondateur du musée de la Tour.
Tendre la main, oui, on est à l'heure de l'Europe, il faut être raisonnable. D'ailleurs, moi, je vous reconnais que je suis très heureux. Mes petits-fils n'iront pas à la guerre. Hein, c'est très bien. Mais il y a toujours, je vous dis, cette ombre-là de 14 qui reste là.
Bien sûr, c'est l'Europe, mais il y a des choses très certainement qui ne s'oublient pas et qui sont encore enfouies.
Jacques Vandenbroucke, historien, Andenais.
Un siècle après, le souvenir de ces personnes qui ont été passées par les armes, baïonnettes, coups de feu, fusillées, est toujours bien présent.
Il faudrait que dans les écoles, on en parle.
Jusqu'en 1940, c'est enseigné.
Francis Balès, Université de Liège.
C'est dans les livres de lecture de français pour l'école primaire. Et puis tout ça est éclipsé.
Toute la Première Guerre mondiale va être occultée par la prégnance de la Deuxième Guerre mondiale.
Laurence Vanipperzeel.
Ça, c'est assez évident.
Quand on découvre les horreurs des camps de concentration, 14-18 semble de la petite bière. Et alors, il y a la concurrence mémorielle. On les emmène à Auschwitz. On ne les emmène pas à Tamine ou à Dinan. Cette guerre de 14, c'est plus enseigné du tout.
Il faut tourner une certaine page, mais certainement pas oublier.
On est vraiment dans ces journées-là, dans un autre monde où la civilisation n'a plus de cours et ça annonce d'une certaine manière non seulement toute la Première Guerre mondiale, mais toute une série d'horreurs que l'on verra au XXe siècle.
Ça nous donne des raisons de réfléchir un petit peu.
Eckhard Kunz, ambassadeur d'Allemagne en Belgique.
Comment quelque chose comme ça, la Première Guerre mondiale, pourrait commencer et comment il était possible que de telles atrocités ont été commises.
On a plein d'exemples dans l'histoire où des gens communs, des gens par ailleurs bien...
Laurence Vanipperzeel, Université de Louvain.
...dans des situations particulières, sont amenés à se transformer en bêtes furieuses.
C'est une interpellation, je crois, à travers le temps, que ces événements de l'été 1914.
Michel Collot.
C'est pas uniquement se complaire dans un sentiment morbide. Non, je crois que ça appelle une réflexion sur le 21e siècle. Donc ça garde tout son sens.
Je crois qu'il faut le dire pour que tout ça n'arrive plus, alors que dans le monde, il y a tant de massacres pareils qui se perpétuent.